beaucoup plus libellule. Le corps lui impose un mode et un fonctionnement et des images mentales. C'est toujours, hein. Alors, par exemple, une araignée est toujours livrée avec sa toile. Le castor est toujours livré avec le barrage, parce que c'est pas deux.
Une araignée est toujours livrée avec sa toile.
Comment tu qu'elle livre l'araignée sans faire de toile? Son propre corps.
C'est toujours une toile.
Son propre corps est la toile. Elle ne peut pas faire un terrier de la
toile. Autre chose. Hein. On peut faire une toile, mais
j'ai... Ou un gratte-ciel du monde.
Oui, mais alors, on peut faire une toile de mètre. Hein.
Oui, mais alors, quand les animaux, ils entendent d'animaux.
Comment évidemment.
On les animaux en
chant. Ça dévie dans tous les sens. C'est un coup. Moi, j'ai un coup, moi. Donc, ce que dit l'enseignement du Bouddha, c'est qu'à l'époque de Shariyotsu et de Moggallana et des autres, ils avaient un perroquet. Et ils avaient appris à ce perroquet à réciter les 4 ou 5 vers des paroles saintes du bouddhisme. Et donc, le perroquet, dès qu'il y avait un moment, il racontait les 4 vers des paroles saintes du Bouddha. Résultat des courses, il s'est fait scraffer assez vite par un tigre qui passait dans le coin. Hop, l'autre il a bouffé. Et donc, il est dit que, en fait, c'était de bonnes conditions pour qu'il renaisse vite en tant qu'homme pour devenir moine.
Parce que ça, c'est possible.
Oui, bien sûr. Bien sûr. L'encre est un éveil, en fait.
L'encre?
Oui, bien sûr.
L'encre, une araignée aussi.
Mais, une couleur, une odeur. Une couleur, une odeur. Aussi, je vous en sors une quand même qui est mignonne, qui est pour vous, là, qui me paraît sain.
Oui, ça me
moi, j'ai un lapin, mais je fais d'un coup, non, vas-y,
quoi. Moi, j'avais vu
à propos des choses disparues. Parménide, -5 avant Jean-Claude. Parménide dit, les choses absentes, regarde-les pourtant par la pensée comme fermement présentes. Car tu ne couperas pas l'étang à part de l'étang, qui ne se tiendra donc ni dispersé partout en toute manière de par le monde, ni rassemblé. Ce qui est, ne peut pas être morcelé, ne peut pas ne pas être. Donc il nous prévient, ce qui est absent, avec ta pensée, considère-le comme fermement présente.
C'est-à-dire que même l'homme...
Tout est présent. Tout est présent.
Et même si tu dis.
Même si tu dis.
Voilà qui est rassurant.
Parce que... Nietzsche dit, la mémoire n'est pas décisive.
La mémoire n'est pas décisive.
Parce que c'est pas parce que tu te souviens d'un truc que cela est ou n'est pas.
Ça change rien au problème.
Ça change rien au problème.
C'est pas bien.
C'est. Donc, pour en revenir...
C'est bon, ça va nous emmerder à penser le
truc. Ah bah oui, c'est clair. Ou à penser à la pureté, l'impureté, le bien, le mal, tout ce
qu'on a. Non, ce qu'on a deux fois.
C'est les données. Enfin, je me suggère d'apprendre le Nietzsche par cœur.
Vous savez, comme il l'appelle, je t'écris, je dis, c'est-à-dire Justine Jean-Claude, il l'appelle l'ingénu villageois.
Donc, pour en revenir au cours. Pour en revenir au cours. Donc, il dit, je répète encore, donc, que nos actes sont produits par les causes et les conditions. Donc, on ne peut pas ne pas être, ne pas avoir un corps, ne pas agir. Mais c'est le passé qui nous fait agir, les pensées.
C'est le passé qui
nous fait. Oui, bien sûr. Les causes du passé. Et le grand patriarche dit que, bien sûr, dans notre vie quotidienne, les choses peuvent s'améliorer ou se dégrader, et que tout change à cause des conditions. Mais il dit, la vie humaine et son territoire, donc l'environnement, sont semblables à des bulles à la surface de l'eau. Ils sont le monde conditionné. Si vous êtes à 35 mètres et vous regardez de loin une casserole qui bout, ou à 100 mètres, vous allez voir que la surface est plane. Si vous descendez, vous allez vous dire, la surface n'est pas plane, la surface est complètement agitée de bulles qui montent et qui explosent tout le temps, c'est le bordel. Et là, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Pour nous, il nous apparaît plan, parce qu'on est trop loin pour le voir, mais en réalité, c'est une effervescence de choses qui explosent et qui disparaissent et qui naissent tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc, on voit des lignes continues.
Nous, on voit un continu. Tout le monde sait que ça, c'est fait d'atomes. Mais comme personne ne le voit, on s'en fout de l'échange atomique. On sait bien que dans 1000 ans, la table, elle aura été pourrie, qu'elle aura disparu, mais on ne voit pas, nous. c'est la même table depuis des années qu'on fait le tour ici, donc pour nous, on partira du principe qu'elle est identique à elle-même, la table. Donc l'humain met toujours l'identité des choses, donc il fait un monde non mouvant. Mais c'est faux. Le monde est comme une, de l'eau dans une casserole et tout est en ébullition. C'est ce qui tolère, c'est ce qui permet le changement des choses. C'est ce qui permet le vieillissement, c'est ce qui permet les accidents, c'est ce qui permet les améliorations de santé, les dégradations de santé, c'est ce qui permet le pourrissement des choses, c'est ce qui permet, c'est tout ce qui est comme ça. Mais en tant qu'humain, on ne peut pas le voir. Et bien en plus, sachez que tout est instantané et que tout est effet. Alors, on continue le cours, là. J'aurais pu parler 3 minutes d'affilée, je suis content. Toujours avec cette idée. Il est dit, dans le bouddhisme ancien, on expliquait qu'il y a 12 maillons de la causalité qui font la vie humaine. Je ne vais pas les citer tous parce que c'est pas l'objet du cours. Mais il dit, dans ces 12 maillons, donc, ceci entraîne cela, il dit qu'en fait, la conscience, le nom et la forme, donc, la forme c'est le corps et le nom c'est les pensées qui nous viennent, hein. Donc la conscience, le nom et la forme, les facultés sensorielles, le contact, sont les fruits du présent. Ce sont des fruits. Le corps, la conscience, la pensée, ce sont des fruits, des effets. Des effets qui viennent de deux causes, globalement, deux causes du passé. Ces deux causes du passé, c'est quoi? C'est l'ignorance et les actes. Donc l'ignorance, que de rien comprendre à rien, de rien comprendre tout le monde, l'ignorance et les actes entraînent ce qu'on appelle maintenant le corps et la pensée qui surgit, et puis la conscience et les six sens. Donc il dit...
Ce qu'on connaît maintenant, c'est ce qu'on a déjà fait.
On y vient. Mais oui, c'est ça. En somme, il dit, les fruits du présent, donc le corps, la pensée, machin, sont dus aux causes du passé, mais en même temps, les causes présentes, c'est-à-dire le corps et les actes et la pensée, engendrent les fruits du futur. C'est-à-dire que des baisers, tout s'impose en termes de effets, et en même temps, ce sont des causes d'où vont apparaître des effets. Mais tu dis, mais vous la
portez.
Comment je sors de ce bordel?
Oui, donc c'est juste un truc, donc tout ce qui est voyant, etc.
Il y aura.
Oui. Pour observer, si tu veux connaître le futur, si t'es pas trop con, finalement, tu observes le présent. Et finalement, tu peux...
T'observes rien parce que tout est instantané.
C'est le cycle, c'est le
comme, étant, comme tout est instantané, la notion futur, passé, ben, ça n'existe pas.
Ouais,
ce sont des vues ouais. De l'humain pour toujours préétablir.
C'est ça, c'est le cycle.
C'est le cycle des six mois.
Le cycle des six mois, c'est
tout. Qui est l'instantanéité.
On est maintenant, c'est ce qu'on a toujours été.
Voilà. Mais on y vient. Donc.
Toujours dans l'ignorance et l'état.
Toujours dans l'ignorance.
Toujours en subissant les choses.
Donc.
Sans agir.
Alors que là, tu agis.
En fait, il n'y a qu'en fait.
Tu agis.
Donc, le grand patriarche, je dis. On dit que le corps suit le cœur. Cela signifie que diverses conditions physiques se manifestent selon les conditions du cœur. Si le cœur est empli d'erreurs, dues aux obstructions karmiques, le corps en subit les rétributions. C'est-à-dire que bien qu'on ait dit, jusqu'à maintenant, que le corps, enfin les trois actes, le corps, la parole et la pensée, sont les fruits du passé, bien qu'on ait dit ça, et que ça entraîne les fruits du futur, somme toute, si le cœur peut se libérer d'illusions, à ce moment-là, le cœur, donc la une pensée, modifie tout l'agencement de l'environnement et du corps. Comment le cœur pourrait-il se dénoircir, alors que justement il est pollué, parce que c'est l'effet du passé infini, donc le cœur il ne peut pas être dépollué par lui-même. Et bien la seule manière de dépolluer le cœur dans l'instant, donc au sein des troubles, de la bêtise, de l'orgueil, de la colère, tout ce que vous voulez. La seule manière de dépolluer le cœur, c'est que le cœur croit. Croire. Dans l'enseignement du Bouddha. Donc c'est le fait d'accepter l'enseignement du Bouddha, donc de ne pas le rejeter, de croire, et donc de pratiquer, bien entendu. Mais c'est le fait de ne pas rejeter et de croire qui permet la pureté, la purification du cœur. Et donc la purification de l'environnement.
Et d'entraîner le corps.
Donc c'est le fait de croire qui est, dans l'enseignement du Bouddha originel, la merveille de la cause originelle.
Donc c'est la foi.
La foi. Donc la foi, ne pas rejeter, croire, accepter, prendre, ne pas rejeter. Croire est la merveille de la cause originelle. Et la pratique, c'est la merveille de l'effet originel. Autrement dit, en recevant et en gardant Myo Lingekyo, on a la cause et l'effet de l'éveil en nous-mêmes. Alors que nous avons jusqu'à maintenant été toujours effet seulement.
Oui. Ça, c'est vrai. Non, mais je dis, parce que c'est pas, il y a des trucs qui...
Rien n'est facile pour personne.
C'est vrai.
C'est pour ça que je dis
plutôt que le Bouddha n'a pas besoin
de...
Mais
non, le Bouddha, il voit.
Oui,
il croit. Il va croire. Il croit, c'est pour les abrutis qui ne voient pas.
Oui.
Quand un chien, tu es avec un chien, et voilà, chez toi, et quand le chien se lève, et fait, oh, comme ça.
Il croit pas.
Il voit. Tu lui dis, mais t'as vu comme ça, tu sais pas, t'as rien vu. C'est pas un glaps. Et lui, il a même pas posé la question.
Il voit.
Quand les éléphants, le tsunami, les éléphants en Thaïlande, veulent absolument scalter, arrachent leur machin, et mourent en amenant des gens. Il n'y a pas une mort. C'est pas, mais eux, ils n'allaient pas leur dire, qu'est-ce que tu crois, mec, faut pas arracher les cordages. Ouais, eux, ils ont vu le truc, donc ils sont calés.
Les gens les ont suivis.
Ils sont calés.
Ils ont mis des cadres sur les
cordages. Et eux qui disaient, on voit rien, mais l'humain, il voit
pas.
Allez, on continue le cours. Là, vous allez rire aussi. Notre manière d'être, physiquement et spirituellement depuis les vies passées, constitue la cause de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc notre manière d'être depuis un temps infini, comme je disais, c'est le présent, c'est ce que nous sommes maintenant et notre environnement aussi. Aussi dit-il, même après la mort, notre forme, autrement dit notre corps, devient le cœur. Et ce dernier, c'est-à-dire le cœur, se fond à la forme, et en fonction du principe de cause, de condition, d'effet et de rétribution, diverses transformations s'opèrent en nous, et ainsi s'ouvre la vie suivante. Donc c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les deux lois de la matière et de l'esprit sont, qui ne sont qu'une seule chose, parce qu'il y a une dualité de la matière et de l'esprit. On dit deux lois matière-esprit pour que les gens entendent et comprennent, mais en réalité c'est un. Mais passé, présent, futur, l'ordonnance de ces deux lois, la manifestation particulière et singulière de ces deux lois est permanente, sans commencement ni fin. Donc on trouvera dans le 103 la chose suivante. Vous allez rire bientôt, je vous préviens. Voilà, le souverain de la loi dit que les deux lois du corps et de la matière et de l'esprit transcendent toutes les transformations dues au temps, toutes les vicissitudes. Ces deux lois sont infinies et éternelles. Ces deux lois, donc de la matière et de l'esprit, dans cette infinité, s'ouvrent sous la forme des 10 mondes, montrent toujours l'aspect des 10 mondes, qui vont de l'enfer au monde du Bouddha, et subsistent en permanence. Donc il y a absolue permanence de la forme et de l'esprit tout le temps. Il n'y a pas de point de départ au corps et à l'esprit. Donc, ni fin.
C'est là où on devait aller.
Ah non, ça va venir. C'est là. C'est là parce que elle est bonne. Donc, Nietzsche cite le sutra du roi bienveillant, où il est dit « Si un homme détruit l'enseignement du Bouddha, jour après jour, les maladies et les démons viendront le tourmenter. Les désastres tomberont sur lui, et le malheur le poursuivra là où il va. Une fois mort, il entrera en enfer, chez les esprits affamés ou les animaux. S'il en sort et devient un homme, sa rétribution sera alors d'être l'esclave de l'armée. Comme l'écho, comme l'ombre. Comme l'homme qui écrit la nuit et dont les mots demeurent, m'appelant l'extinction de la lumière. Ainsi est la rétribution dans les 3 mondes. Les 3 mondes, donc désir, forme, forme, et ici ou en fait. Tout ça. Mais le bon matériel, je dis, à propos, quand Nietzsche dit comme l'écho, comme l'ombre. Le grand patriarche dit, l'écho est celui du son, et l'ombre est celle du corps. Dès qu'il y a un son, il y a forcément un écho, une résonance, et s'il y a un corps, il y a inévitablement une ombre. Ces exemples enseignent que, tant qu'il vit, l'être humain s'exprime en tant que son et en tant que corps. L'être humain s'exprime en tant que son et en tant que corps. Eh oui. Parce que vous êtes sans arrêt bombardé par des sons, votre pensée. Vous pouvez exprimer des sons, c'est votre parole, et tout ce que vous sentez, c'est le corps. Chaud, froid, j'ai envie de pisser, j'ai faim, machin. Bon. Donc il dit, Tant qu'il vit, l'être humain s'exprime en tant que son et en tant que corps, devenant alors l'écho du son et l'ombre du corps après la mort. Le sens de l'ombre est celui du karma qui parcourt les trois phases du passé, du présent et du futur. Et quand il dit que l'être humain s'exprime en tant que son et en tant que corps, ça signifie que la pensée est entendue. La pensée n'est pas un acte. La pensée, c'est entendre. Donc, t'es pas décisionnaire, mec. T'es baisé par ta pensée tout le temps. Tu entends.
Oui.
Et donc, t'es pas décisionnaire.
C'était la Grèce.
Non, je ne baisse pas.
Non.
Aujourd'hui, j'ai baissé personne. Je viens à vous. Donc, en tant que corps, donc le lieu des sensations.
Parce que quand tu dis que t'es pas décisionnaire, c'est-à-dire que t'es esclave. En
fait. Oui. La pensée.
T'as fait d'accord.
La pensée, c'est un
peu. Tu...
Elle apparaît.
Elle apparaît.
Tout s'impose. Mais la pensée aussi. Les actes et le corps.
Le corps
s'impose tout le temps.
Tu vas plus loin, même tous les objets qui t'entourent.
Oui.
S'impose.
Par contre, si je prends l'exemple d'ici, chez Madame Lucan. Tous les objets qui l'entourent, c'est son karma.
Enfin, ça fait partie de son lieu.
C'est pas le hasard qui, s'il y a du Honoré de Balzac, comme
puis
ça,
quand,
si la table est comme ça.
Quand il y a un an, elle va dans la cuisine un soir et qu'elle ouvre son placard et qu'il lui tombe sur la gueule et qu'elle pisse le sang partout, c'est évident. Tout est instantané.
Tout est
en lien direct. Donc, pour en venir à cette idée qu'on vient de développer là, à savoir que la pensée, c'est le son entendu, la pensée hurle. Vous pouvez très bien être devant un téléviseur qui marche et que votre pensée empêche le son du téléviseur. Ce que vous entendez est plus fort. On a tous vu ça.
Même pendant les cours de Paul. Donc,
que dit Parménide de Lé, -5 avant Jean-Claude? Il dit, de la manière dont à chaque fois la nécessité tient le mélange des membres aux courbes nombreuses, ainsi la pensée se présente aux hommes. Car c'est un même, ce dont s'avise la nature des membres pour tous, les hommes et pour tout, car ce qui prédomine est la pensée. Mais il y a encore la proportion du mélange du corps, les bras, les ongles, machin, tout ce qui est le corps. Il y a la proportion du mélange, c'est cela qui constitue la pensée. Quand il y a la pensée sourde du corps, nous dirons la pensée sourde de l'interaction corps-environnement instantanée. Mais Parménide avait vu, la pensée vient du corps.
Donc elle s'inscrit comme sur une bande magnétique et tu te la traînes et tu la
retrouves. C'est que le corps et l'environnement la font jaillir tout le temps. Et Parménide dit, à propos des êtres humains, l'embarras dans leur poitrine fait courir droit devant leur pensée errante. Ils se laissent porter aussi muets qu'aveugles, effarés. La fille a vu les êtres, tout le temps, être agités par leurs pensées. Nietzsche dit, si vous écoutez un groupe humain sans intervenir 10 minutes, vous écoutez attentivement ce qu'ils disent, vous verrez les 6 voies de l'habilité, l'animalité, stupidité, colère, angoisse, orgueil, joie. Il dit, vous verrez les 6 voies apparaître. Mais si après tu vas voir les mecs en leur disant, tu disais des conneries tout à l'heure, tout le monde va s'estimer libre de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Mais c'est toujours les 6 voix qui apparaissent. Mais tout le monde se croit libre de ce qu'il pense. On dirait c'est mon caractère, c'est mon dépense,
ça marche.
Si je veux. Mais toujours, donc, Nietzsche, disons, on peut lire les 6 voix si on n'intervient pas, mais malgré tout le monde se sentira libre de sa pensée. Ah oui, bien sûr.
Donc de rester con.
Et donc de rester dans les 6 voix. Donc, Heidegger, à ce propos, dit, parler est avant tout écouter. Il dit, la parole parle elle-même. Ah oui, elle s'impose. La parole parle.
Écouter sa pensée.
Les mots montent. Donc il dit aussi, la parole est toujours déjà en avance sur nous. nous ne faisons jamais que parler à sa suite. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que ça monte les mots. Toujours. Nietzsche dit, la pensée surgit en moi. D'où vient-elle? À travers quoi? Je l'ignore. Elle se présente indépendamment de ma volonté. La pensée surgit. Oui.
Alors que c'est évident.
Pardon?
C'est évident. Ça dépend jamais de la pensée.
Oui, c'est là qu'après tu vas te dire, je n'ai pas du tout, c'est brutal, mais malgré tout ça sort, et c'est comme ça, c'est toujours comme ça.
Et c'est toujours comme ça.
Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est complètement maître de sa pensée.
On est maître de la pensée.
Quand on pratique quoi, je dirais, on a l'impression qu'on est maître.
Ah, totalement. Totalement maître de ta pensée.
Si je veux, je veux. Si je décide, etc. Donc, il y a toute la morale, c'est ce que dénonce Nietzsche. En fait, la moralité, etc., je veux dire ça, c'est bien ça. Il dit, en fait, finalement, l'erreur fatale, c'est ça, c'est d'avoir cru à la volonté.
D'avoir cru qu'il y avait une volonté chez les deux.
D'avoir cru qu'il y avait
une volonté. Et un mois,
et après, tout le christianisme, en fait, découle de ça. Parce que les gens ont pensé qu'il y a une volonté.
Puis le sujet perdurant, hein.
Après, il y a la morale, etc., la mesure, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça c'est plus bien, etc.
Donc Nietzsche encore dit, sentir, vouloir, penser, ne témoignent partout que de phénomènes terminaux dont les causes me sont absolument inconnues. Vouloir, penser, sentir, il dit, ça s'impose et je ne sais pas d'où ça vient. Or, c'est comme le plus grand penseur occidental. Et dit vouloir, penser, non, ça apparaît comme ça, et je sais pas du tout d'où ça vient, je suis comme un con comme tout le monde. Je trouve ça assez honnête.
Oui, lui, il arrête pas de démontrer
tous les systèmes. Et donc, dans notre école à nous, on peut voir la chose suivante, où il est dit, ça c'est méchant, il est dit, le véritable aspect des phénomènes est situé avant le discernement ou la différenciation des phénomènes. C'est-à-dire que le véritable aspect de ta vie, c'est toujours antérieur au fait d'entendre, de voir et d'avoir une pensée. C'est toujours le passé immédiat des choses. Donc, ton aspect réel, tu peux jamais le prendre en main quand tu ne pratiques pas. Je répète, le véritable aspect des phénomènes, donc nous, est situé avant le discernement.
Avant le discernement de la pensée.
Avant de voir, avant d'entendre, avant de sentir, avant...
Avant de prendre conscience.
Par exemple, on en a un plus simple. Si je parle du poids du vêtement sur votre genou droit, tout le monde va le sentir. Ce qui signifie que dans l'instantanéité, le corps est toujours en relation avec plein de choses. Mais l'information ne monte pas jusqu'à la conscience parce qu'il y a des choses à foutre. Vous pouvez bien savoir que vous avez le plus tard qui est sur la cuisse ou la chaussure au bout de l'orteil. Ces choses existent, mais ne sont pas apparaissantes à la conscience. Si on en parle, on va dire, ah oui, je sens bien, moi, sur mon genou, le
tête.
Donc, toujours le corps est en relation avec une infinité de choses réelles dans le présent, mais la conscience d'eux est toujours le passé immédiat du corps. Ceci vient de dire, le véritable aspect des phénomènes est situé avant le discernement ou de la différenciation. Donc, on est en plein dedans, hein. Aussi, et après, je pense que je vais me faire un peu de scotch bientôt. Ça va être sympa. Ah, celle-là, elle est bonne. À propos de tout ce qu'on vient de dire sur la pensée qui apparaît comme ça, machin. Nichiren. S'il a de l'humour, Nichiren, il dit la chose suivante. Il dit, à propos de l'accès à l'éveil, il dit, il est difficile de comprendre que la récitation de Nam-myoho-renge-kyo est identique à la contemplation de la pensée. Les sots doivent cependant réfléchir à cette affirmation. Je répète. Il est difficile de comprendre que réciter Nam-myoho-renge-kyo est identique à la contemplation de la pensée. C'est-à-dire que, on dit aux êtres, récitez Nam-myoho-renge-kyo et vous allez pouvoir vous libérer de cette pensée absurde qui monte tout le temps en vous, et vous libérant de cette pensée absurde, vous allez faire apparaître l'éveil. Donc s'il y a bien quelque chose qui permet réellement l'observation en profondeur de toute la richesse de la pensée, c'est de réciter Nam Myoho Renge Kyo. Parce que la pensée qui arrive tout le temps, elle sert à rien. C'est un effet. Donc il dit, il est difficile de comprendre que réciter Nam Myoho Renge Kyo est identique à une véritable contemplation du cœur et de la pensée. Il dit, c'est difficile. Les sots doivent cependant réfléchir à cette affirmation. Les sots, c'est nous.
Oui.
Si Nichiren affirme que... Si Daishonin affirme que réciter Namiro Lengekyo est réellement l'observation de la pensée, les jaillissements de ce qu'il y a de plus grand dans la pensée, bien tous les aboutis qui comprennent rien feraient bien quand même de tenir ça en compte et de le faire quand même s'ils sont cons. C'est ça qu'il veut dire. C'est drôle, non? Les sots doivent cependant réfléchir à cette affirmation. Je trouve ça marrant, hein, de la part du Bouddha originel. C'est pour ça qu'en fait, en récitant Daimoku, oralement, on l'entend aussi. Comme tout à l'heure nous disions, l'être humain s'exprime en tant que son et en tant que corps, comprenez bien que réciter Daimoku, c'est l'entendre aussi. Donc, bien connaître, on existe en tant que son et en tant que corps, si l'on pratique, le son de la loi qui est engendré touche tout notre passé, notre futur. Ça devient le son prioritaire, parce qu'on pratique 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça devient le son qui aura, au fur et à mesure, écarté tous les sons de la souffrance, de l'angoisse, de l'orgueil, de la stupidité, qui seraient montés sinon comme tout le monde.
C'est le fait de l'entendre quand on pratique, on y croit. Et le fait d'y croire, on continue à pratiquer.
Parce que, assez évidemment, tout à l'heure on disait la croyance c'est la merveille de la cause originelle, mais en même temps, tout ce que les gens entendent en eux comme pensée ou ressentent en eux comme contact du corps, ils y croient dur comme fer. Donc les gens sont toujours attachés à des petites croyances. Je pense ceci, je pense cela, j'ai vu ceci, je ressens cela. Les gens sont attachés à cette petite croyance des choses qui montent en eux, dont ils ne sont que les faits. Et après, quand tu leur dis, récite Daimoku, pourquoi, moi je fais ça, je suis libre de faire ce que je veux, machin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Là, ce sont les croyances qui apprennent la souffrance. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est ça.
Ah oui, bien évidemment.
Mais des fois, c'est pas conscient. Il y a des gens qui sont vraiment,
D'ailleurs, voilà, on vient juste, hein. Le son en soi est ce qui est cru vrai. Je pense ceci. J'ai envie de cela. Hein, le son en soi est ce qui est cru vrai. Et le contact du corps avec les choses, j'ai froid, j'ai chaud, j'aime pas. Le contact aussi est cru vrai. J'ai froid, j'ai chaud, c'est pas faux. Si j'ai froid, c'est bien que, parce que c'est vrai. Moi. Donc, tant la pensée que le corps sont ce qui est cru vrai par les êtres en général et s'y attachent. Donc, Nichiren dit, au plus vite, rectifiez l'attachement en votre petite croyance. Et le souverain de la loi dit, le mot croyance est important. Notre vie quotidienne elle-même existe entièrement en fonction de notre type de foi et de vénération. Même ceux qui prétendent ne pas avoir de religion, d'une manière ou d'une autre, ont foi en quelque chose. La vie quotidienne a existé dans le passé, existe à présent et existera dans le futur, constamment sur la base de la foi et de la vénération. Les gens ne vivent que ce qu'ils croient vrai.
Et moi, je trouve que quand on plus en pratique, moins on a de croyance.
Ah, bien sûr. On rejette.
Et les gens qui s'opposent à la pratique, ils se disent, oui, moi, je ne crois en rien, moi, j'en connais. Hein.
C'est des grandeurs.
Proches, très proches. Ils sont bourrés de croyance.
Ouais.
Et ils ne veulent pas pratiquer parce qu'il faut croire. Tu vois, là, je me dis que finalement, la pratique, c'est vraiment justement se débarrasser de toutes les croyances. De toutes ces petites croyances. Et les gens, ils ne
On finit, non? Il est 19h30, donc. Donc, une dernière, j'ai prévu plus, en fait. J'ai perdu l'habitude de faire les courses.
C'est toujours plus.
Une dernière de Nichiren. Le profond des phrases est la loi merveilleuse au degré de dénomination, si on peut nommer. Hein, l'identité de l'être ordinaire et du sublime, le saint, c'est le fait de pouvoir nommer. On parlait du son, de la parole. Là, c'est nommer. Nommer la loi. Nyurling de Kirpon. Donc, Nichiren dit, le profond des phrases est la loi merveilleuse au degré de dénomination lors de l'éveil véritable dans le passé lointain, sans y mêler d'autres pratiques. C'est Nam-myoho-renge-kyo, contemplation correcte instantanée, pratique de la réalité d'une pensée de 3000. Autrement dit, Nam-myoho-renge-kyo, c'est la contemplation correcte instantanée du passé hors le temps de nos vies. Parce que nos vies sont hors le temps. Nichiren dit, le passé hors le temps est l'originel, le présent est l'éphémère. Tout est instantané. Donc rien n'est point de départ. Donc, la qualité suprême de l'instant hors le temps, c'est l'éveil et les neuf autres mondes, toujours. Il y a toujours 10 états. Il dit les 10 états, les 10 mondes sont à l'origine. Donc, la qualité la plus élevée, c'est Nam-myoho-renge-kyo, qui est la contemplation correcte instantanée. C'est ça la pratique de la une pensée du monde. Et j'en finirai parce que quand même la question avait été posée avec ceci.
La contemplation, c'est voir vraiment les choses telles qu'elles sont.
La contemplation, voilà. Immobile dans le...
Voilà. Et on terminera sur cette phrase de, du grand patriarche. On voit ce qu'on vient de dire sur le, la contemplation immobile. Quand nous récitons Daimoku, nous nous unissons naturellement à l'état de véritable concentration du Gwanzan, qui comprend l'ensemble du monde des phénomènes. Cette concentration est appelée la concentration immobile dans l'espace. Autrement dit, quand toutes nos mauvaises passions et notre cœur dispersé s'unissent au Gwanzan, nous obtenons le bienfait de la concentration indépendamment du fait que nous nous en rendions compte, et la maladie de notre cœur est guérie naturellement.
Donc, c'est instantané.
Mesdames et messieurs, c'est de bonnes choses dedans. Donc, bah, écoutez, on s'est arrêté, on n'a pas été, on n'a pas été, merde, je suis pas Donc, on s'est arrêté, je pourrais peut-être continuer sur la lancée un autre jour, si vous avez le courage.
Ou peut-être.
Non, parce qu'apparemment, Paul, il a eu, mais je pense que vraiment le dernier.
Non, il y en a plus.
Il y en a plus. Je pensais assez, parce que Paul,
il y en a voir dans un mois et demi.
Ah, d'accord, il y en a pas. Effectivement,
j'ai fait la moitié, j'avais 2 courants.
Oui, mais là, pour le prochain, allez, non.
Mesdames et messieurs, merci de votre attention.